Alors, ce matin, j'aimerais avec vous lire le psaume 19 pour lire le psaume 19 et voir ce qu'il peut nous apporter comme enseignement. Alors, ce psaume, David, dans ce psaume, il résume comment Dieu se révèle à nous, à l'humanité. Et il utilise deux moyens. Dans la première partie, tout est visuel. Il n'y a pas de mots, mais c'est un langage quand même. Nous allons lire donc les sept premiers versets où Dieu se révèle par son œuvre. Les cieux au chef des chantres, psaume de David. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre, leur accent vaut aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Vous voyez donc que Dieu, dans la première partie de ce psaume, se révèle par son œuvre créatrice. Alors nous pouvons admirer la beauté de cette œuvre, mais aussi la perfection, la complexité de cette œuvre. Dieu ne se contente pas de créer, mais il dirige aussi son œuvre. Il la fait fonctionner. Et même encore aujourd'hui, après Einstein et tous les grands physiciens qui l'ont suivi. Même encore aujourd'hui, dans la compréhension du fonctionnement de l'univers, eh bien, nous n'en sommes qu'à des balbutiements, tellement cet univers est complexe. Et donc, ça nous fait penser que Dieu a une sagesse, une intelligence qui nous dépasse. Et Dieu se révèle donc par cette création, et aussi veut nous rappeler qu'il dirige tout ça. Et donc, il le fait sans parler, sans un mot, mais c'est pourtant un langage que nous devons comprendre. Cette première approche pour connaître Dieu, qui est pourtant claire et cohérente, elle est rejetée malheureusement par l'humanité pécheresse et donc ne peut amener les pécheurs à la conversion, mais nous y reviendrons plus loin. Cependant, elle rend les hommes responsables parce que c'est tellement évident quand on contemple la nature, ça doit nous pousser à croire qu'il y a un créateur, mais pas seulement un créateur parmi d'autres, mais ça doit nous pousser vers Dieu, donc d'accepter qu'il y a et de croire qu'il y a un Dieu unique qui a créé toutes ces choses. Mais la plupart du temps, eh bien, les hommes ont rejeté malgré la clarté de cette révélation, ils l'ont rejeté. Et Dieu les rend responsables. C'est ce que nous pouvons lire dans Romains au chapitre 1. Au verset 18, Paul dit ceci: « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc, les hommes, ils sont donc inexcusables. » Donc, la création et l'œuvre parfaite de Dieu n'est pas le fruit du... Donc, reconnaître que la création est l'œuvre de Dieu et non le fruit du hasard, c'est donc la première chose que nous devons réaliser pour faire la connaissance de Dieu. Mais si nous voulons vraiment connaître Dieu, nous devons pousser les choses plus loin. Et c'est ce que l'on va faire dans la suite de ce psaume. On va revenir au psaume 19. Voilà, dans la suite de ce psaume, Dieu maintenant va utiliser le deuxième moyen. Nous étions dans le visuel, pas dans le virtuel. On a été beaucoup dans le virtuel, on y est encore un peu. On était dans le visuel. Maintenant, il parle pour se révéler à l'humanité. Dieu va utiliser maintenant sa parole. Dans cette partie que nous allons lire maintenant, il ne s'agit plus de contempler, de s'extasier, d'admirer seulement, mais il s'agit d'écouter, lire la parole de Dieu. Alors, c'est à partir du verset 8, nous lisons. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Voilà donc, David, en parlant de la parole de Dieu, il parle beaucoup de ses lois. Donc dans cette partie, il y a beaucoup de références aux lois, commandements, préceptes, ordonnance et tout ça. Et alors, c'est peut-être pour ça que certaines personnes ne veulent rien savoir de Dieu, parce qu'ils se disent, Dieu, bah, c'est quelqu'un qui est là pour nous empêcher de faire ce qui nous plaît, de nous amuser. C'est un empêcheur de tourner en rond, comme on dit, de danser. Et ils prennent vraiment Dieu pour un trouble-fête. Parce qu'ils ne voient en Dieu que comme quelqu'un qui ne fait pas ceci, ne fait pas ça. Et donc, il rejette Dieu. Mais il se trompe. Il se trompe parce que Dieu, en donnant ses lois, ses ordonnances, nous montre qu'il s'intéresse à nous. Et donc, il nous a créés, mais il ne s'est pas, nous a pas abandonnés à notre sort. Il s'intéresse à nous. Et c'est donc par bienveillance qu'il nous donne ses lois. Et non pas pour nous embêter, pour nous ennuyer. Le but visé par Dieu, c'est notre bien. En effet, en suivant ses commandements, nous évitons souvent bien des désagréments. En effet, il y a des situations dont nous ne sommes pas responsables, bien sûr. Mais vous pouvez remarquer que parfois, vous vous retrouvez dans des situations un peu difficiles. Et puis quand vous analysez la chose, vous vous rendez compte que, tiens, si j'avais mieux écouté le Seigneur, je n'en serais pas là. Donc toutes ces ordonnances, ces lois, ces commandements, il ne faut pas les prendre, il faut plutôt les prendre comme des instructions. Des commandements, oui, parce qu'il faut obéir, mais ce sont aussi des instructions, des conseils judicieux qui nous permettent d'éviter, donc, de nous retrouver dans des mauvaises situations. On peut voir dans ces versets quels effets bénéfiques ces ordonnances produisent sur ceux qui les observent. Vous avez par exemple au verset 8, vous voyez que la loi de l'Éternel, elle restaure. Encore au verset 8, elle dit que, le verset 8 dit, le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage. Au verset 9, les ordonnances de l'Éternel, elles réjouissent le cœur. Et encore au verset 9, les commandements de l'Éternel éclairent les yeux. Donc, vous voyez, ils restaurent l'âme, ils rendent sage, ils réjouissent le cœur, ils éclairent les yeux. Et c'est comme ça qu'il faut prendre les lois, les commandements de l'Éternel. Donc, comme des conseils avisés de celui qui est la sagesse même. Mais, ici aussi, Dieu, au moyen de ses commandements, eh bien, il se révèle à nous. Il révèle sa personnalité. En effet, si Dieu nous demande d'aimer notre prochain, par exemple, aimez votre prochain comme vous-même, eh bien, cela nous indique que Dieu est plein d'amour. Donc, ce commandement, eh bien, ça nous fait penser que Dieu est amour. S'il nous demande d'être miséricordieux, cela nous révèle sa bonté. S'il nous demande de pardonner aussi, ça nous révèle aussi la personne de Dieu. Donc, ces commandements nous donnent des indications, nous font mieux connaître Dieu. Donc, Dieu, dans ses lois, ses ordonnances qu'il donne à travers ce psaume, à travers la bouche, l'écriture de David, tous ces versets sont là pour révéler aussi qui il est. Donc, ne prenons pas ces versets comme une suite de commandements à suivre, comme un règlement à suivre, mais comme la parole de Dieu qui se révèle à nous, afin que nous puissions mieux le connaître. Dans cette partie aussi, David nous montre combien il apprécie ces commandements de Dieu. Au verset 10, il dit qu'ils sont vrais. Au verset 11, il dit « Ils sont plus précieux que l'or ». Encore au verset 11, il dit « Ils sont plus doux que le miel ». Donc vous voyez comment David apprécie et aime les commandements, les ordonnances que Dieu donne. Et il le dit encore plus clairement dans le psaume 119. Vous voyez, ce qui est dit ici, eh bien, il est repris dans le psaume 119 et développé, parce que c'est le plus long psaume de ce livre des psaumes. Et dans le psaume 119, donc, nous pouvons lire au verset 97. Voilà, donc là, nous pouvons voir comment David aime recevoir la parole de Dieu, même si c'est sous la forme de commandement, d'ordonnance. Combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin, afin de garder ta parole. Je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes, que tes paroles sont douces en mon palais, plus que le miel à ma bouche. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi, je hais toute voix de mensonge. Donc ne nous contentons pas de voir dans les commandements de Dieu juste une suite de règlements comme le code de la route ou le code pénal ou que sais-je. Mais attachons-nous à l'exemple de David. À l'exemple de David. Attachons-nous, affectionnons-nous à la parole de Dieu. Et comme David, que nous puissions dire, j'aime ta loi. Observons-la avec joie et pour la gloire de Dieu. Car Paul dit dans 1 Corinthiens 10, 31, faites tout pour la gloire de Dieu, quelle que soit la chose que vous faites. Donc quand vous obéissez au commandement, eh bien, vous le faites aussi pour la gloire de Dieu. Dieu se glorifie parce que son enfant est un enfant obéissant. Un père est fier et se réjouit de voir son enfant obéir. Et Dieu se réjouit lorsque nous observons ses ordonnances. Alors, nous abordons la troisième partie maintenant. Donc, on revient au 19. La troisième partie. Donc, c'est à partir du verset 13. Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ceux que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. Ô Éternel, mon rocher et mon rédempteur. je ne sais plus où je suis arrivé. Voilà. Donc, ça commence par qui connaît ses égarements. David a cette humilité de reconnaître que par lui-même, par nous-mêmes, nous ne pouvons pas connaître ce qui est bien, ce qui est mal. Nous avons besoin d'être enseignés. D'être enseignés, et comment devons-nous être enseignés? Pouvons-nous être enseignés? Eh bien, c'est par sa parole, en nous plongeant dans sa parole, en la méditant. Et nous repassons au 119. Tous ces plastiques-là, c'est... Nous repassons au 119, où le psalmiste va nous dire à quel point il souhaite, il désire être enseigné par le Seigneur. Psaume 119, donc 33, verset 33. Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts, pour que je la retienne jusqu'à la fin. Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. Conduis-moi dans le sentier de tes commandements, car je l'aime. Voyez encore une fois, j'aime ta loi. Incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. Accomplis envers ton serviteur ta promesse, qui est pour ceux qui te craignent. Éloigne de moi l'opprobre que je redoute, car tes jugements sont pleins de bonté. Il y a aussi, au verset 9, là aussi nous pouvons lire que nous avons besoin d'être enseigné par la parole de Dieu. Au verset 9, nous lisons « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ? En se dirigeant d'après ta parole. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. » Et un très beau verset « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Donc, voilà, nous avons besoin d'être enseignés. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas connaître la volonté de Dieu. Nous avons besoin de lire sa parole et aussi d'avoir une relation avec lui, de prier, de prendre des moments de prière avec lui. Alors, dans cette dernière partie, le psalmiste nous rappelle aussi que Dieu, donc je retourne au 19, hop. Dans cette dernière partie, donc Dieu nous David nous rappelle que nous pouvons invoquer le Seigneur pour qu'il nous aide. Il nous rappelle aussi que notre Dieu pardonne nos égarements. Certains sont dus à notre ignorance. Quand il dit « qui connaît ses égarements ?», il veut dire ben, « pardonne les péchés que je fais sans peut-être m'en rendre compte et instruis-moi. » Mais aussi les péchés causés par notre orgueil. Au verset 14, et il dit « Préserve ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine pas sur moi, alors je serai intègre, innocent. » Donc, que je n'imite pas les orgueilleux, que je ne sois pas comme les orgueilleux, mais que je reste humble pour accepter tes ordonnances et obéir à tes lois. Il nous rappelle aussi que nous pouvons donc... l'invoquer pour nous préserver. Il y a, au verset 14, il dit « Préserve aussi ton serviteur ». Donc nous pouvons prier dans nos prières, dire aussi, Seigneur, aide-moi à ne pas pécher, à suivre tes lois, à aimer ta loi, à m'affectionner à tes ordonnances. D'ailleurs, dans la prière du Notre Père, nous disons, ne nous soumets pas à la tentation, mais préserve-nous du mal ou délivre-nous du mal. Ça me rappelle un chant. J'aime beaucoup les nouveaux chants, mais n'écartons pas trop vite les chants des ailes de la foi, parce que certains ont des paroles qui sont vraiment très profondes. Il y a ce chant dont le titre c'est « Seigneur, attire mon cœur à toi ». Et dans ce chant, on dit « Pronge mes lances pour t'obéir. Pronge ma vanse pour te servir. Que sous ton aile, loin du péché, sauveur fidèle, je sois caché. » Donc, nous avons besoin que Dieu nous aide, nous préserve. Et donc, nous pouvons invoquer, nous pouvons demander la protection, Seigneur. Je veux être sous ton aile, je veux être protégé. Et malgré mon désir d'obéir, parce que nous sommes pleins de bonne volonté, hein, l'esprit est bien disposé, mais notre chair est faible. Alors, que sous ton aile, loin du péché, sauveur fidèle, tiens-moi caché, préserve-moi du mal. Alors, ce psaume 19, moi, il m'apparaît comme un portrait en trois tableaux. Ça s'appelle un triptyque. Il y a trois tableaux. Et il y a même des charnières. On peut refermer, là, on peut ouvrir. Il y a donc David qui peint, qui dépeint, sous l'inspiration de Dieu, bien sûr, Dieu en trois tableaux. Et il y a d'abord le Créateur glorieux, plein de sagesse et d'intelligence. Dans la deuxième partie, dans le deuxième tableau, nous voyons qu'il s'intéresse à nous, qu'il est bienveillant, et que c'est pour ça qu'il nous donne sa loi, sa parole. Dans le troisième tableau, nous voyons qu'il nous enseigne, qu'il nous préserve du mal et aussi qu'il nous pardonne. Mais si nous voulons vraiment connaître Dieu, nous devons tenir compte de ces trois tableaux qui sont un résumé, hein, de qui est Dieu, parce que on pourrait écrire des livres et des livres pour dire qui est Dieu. Mais nous devons tenir compte de tous ces attributs et ne pas juste garder ce qui nous plaît. C'est bien de louer et d'admirer, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, que Dieu est créateur, de le louer pour sa création, la nature, la beauté de la nature, la perfection de la nature. C'est très bien, mais c'est une partie de Dieu. Il ne faut pas oublier le reste. Et dans la deuxième partie, il nous donne sa loi. Et donc là, ça devient plus difficile à digérer, parce que parfois, nous avons du mal à obéir. Mais nous devons tenir compte de cette deuxième partie. Et enfin, nous devons aussi tenir compte que nous avons besoin de lui pour être enseignés, de sa parole pour être enseignés, et qu'il nous préserve de mal et aussi qu'il nous pardonne. Donc si nous tenons compte d'un seul de ces trois aspects, je vais dire de ces trois tableaux, eh bien, nous ne pouvons pas connaître Dieu. Dieu, nous devons l'accepter dans son intégralité. Dieu pardonne. Ah, chouette, il pardonne. Ouais, mais non. Hein. Oui, c'est vrai, il pardonne, mais ça ne veut pas dire que nous devons comme le dit Paul, profiter de la grâce de Dieu. Nous devons donc faire tous nos efforts pour ne pas, pour obéir et ne pas avoir besoin du pardon de Dieu, ne pas abuser du pardon de Dieu. Si je tiens compte seulement du tableau du milieu, de la loi, je deviens un peu légaliste. Je deviens religieux, donc je suis les commandements à la lettre. Et non, il faut prendre Dieu et l'accepter dans toute son intégralité. Et ne pas seulement prendre ce qui nous plaît. Enfin, pour vraiment connaître Dieu et être en mesure de le suivre, de lui obéir, d'aimer sa loi, et notre frère Michael vient de nous le rappeler dans sa présidence, il faut connaître Jésus, Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est le plus important, qui doit être le centre de notre vie. Nous devons connaître Jésus-Christ et ce qu'il a fait pour nous. Dans un lointain passé, nos ancêtres, dans le jardin, ont commencé à désobéir à la loi de Dieu. Pourtant, ils n'avaient qu'un commandement à suivre, hein. Ils n'en avaient pas 236. Ils avaient juste une chose qu'ils ne pouvaient pas faire. Et ils l'ont faite. Et cette désobéissance a été catastrophique, bien sûr, et a amené la chute. Et donc, depuis lors, le péché est entré dans le monde. Et l'humanité a été séparée de Dieu. Et cette distance, cette séparation, nous ne pouvions pas la combler. On ne pouvait rien faire pour se rapprocher de Dieu. Alors Dieu est venu à nous sous la forme d'un fils d'un charpentier, sous la forme de Jésus-Christ. Et donc Jésus-Christ est venu mourir sur la croix pour prendre sur lui notre châtiment, le châtiment que nous méritions, pour prendre sur lui la faute. Et donc, si nous voulons vraiment connaître Dieu, eh bien, nous devons passer par Jésus. Nous devons passer par ce que nous appelons la repentance, c'est-à-dire que nous devons reconnaître devant Dieu que nous sommes pécheurs. Nous repentir, ça veut dire que ça doit nous faire quelque chose. Si je dis, ouais, je suis un pécheur, bah oui, mais qu'est-ce que tu veux, hein? Je suis comme ça. Non, ça doit nous faire mal, on doit vraiment... Et alors on se tourne vers Dieu et on dit, Dieu, mon Dieu, voilà, je suis un pécheur, et qu'est-ce que je peux faire, je ne peux rien faire. Et Dieu va me répondre, ben, accepte mon fils Jésus-Christ comme sauveur, et il n'y aura plus aucune condamnation pour toi. C'est ce que dit Romains 8, 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin, mais je vais vous laisser avec un dernier verset. Et on retourne au 119. Verset 12. Béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Je médite tes ordonnances. J'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes statuts. Je n'oublie pas ta parole. Je vais terminer par la prière, une petite prière. Seigneur mon Dieu, je veux te remercier, te louer, parce que tu t'es révélé à ta créature. Tu l'as fait d'abord par ta création, par la beauté et la perfection de ta création. Mais Seigneur, ça ne suffisait pas. Alors tu nous as donné ta parole qui nous instruit, qui nous corrige, qui nous encourage, qui nous réjouit. Seigneur, nous voulons te remercier pour cette parole qui nous permet de nous garder du mal. Seigneur, merci aussi parce que tu nous préserves du mal et tu pardonnes nos égarements, Seigneur. Merci parce que nous ne sommes pas toujours obéissants, que ce soit par ignorance. Alors instruis-nous. Ou que ce soit par orgueil, alors chasse de notre cœur cet orgueil, Seigneur, qui nous empêche de suivre tes ordonnances. Merci, Seigneur, pour t'être révélé à nous. Et surtout, merci parce que tu as donné ton Fils pour que nous puissions un jour être réunis ensemble pour l'éternité. Amen.